på samma mat som kossorna.
Le magazine de l'environnement.
Men då behöver de få lite extra, så då ger jag dem lite extra.
Sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'est un équilibre qui est en train de se rompre à l'image du lac glaciaire qui s'est soudainement déversé dans le nord de l'Inde faisant des dizaines de victimes. C'était le 7 février dernier. Est-ce que ce genre de catastrophe va se multiplier? Les quelques 200 000 glaciers répartis sur notre planète sont en train de fondre à une vitesse époustouflante. Les conséquences sont et vont être colossales. Manque d'eau douce pour l'irrigation et l'utilisation domestique, disparition des animaux et des plantes qui en dépendent, fin des loisirs de montagne et hausse du niveau de la mer. Alors on respire un grand coup et on s'attaque à un état des lieux sans concession avec notre invité.
En quelques minutes à peine, la Dauri Ganga s'est transformée en monstre de fureur, chargé de débris. Plus en amont, dans cette partie de l'Himalaya, un glacier s'est effondré, provoquant en aval un gonflement surprenant de la rivière. Sortis de leur lit habituel, les flots emportent tout sur leur passage, y compris ce barrage et la centrale électrique toute proche.
Je regardais de haut en bas et je ne pouvais rien voir. Mais 5 minutes plus tard, j'ai été témoin de quelque chose qui ressemblait à une scène d'un film de Bollywood. Je n'ai jamais rien vu de tel que ce que j'ai vu au barrage. Une centaine de personnes couraient pour sauver leur vie, mais n'ont pas pu être sauvées et elles ont été englouties par la rivière.
C'était le 7 février dernier dans le nord de l'Inde. Bonjour Patrick Vagnon.
Bonjour.
Vous êtes glaciologue à l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble. Vous avez participé à de nombreuses expéditions en Himalaya. Vous avez vécu au Népal. Vous connaissez bien ces glaciers himalayens. Que s'est-il passé le 7 février ?
Alors, le 7 février, il y a eu une lave torrentielle. Donc, c'est un mélange d'eau, de débris rocheux qui a dévalé une vallée et qui a donc englouti un village et ensuite un chantier où il y avait la construction d'un barrage. Donc à l'origine, on ne savait pas trop ce qui s'est passé, mais rapidement, il y a un consortium de scientifiques qui s'est intéressé à cet événement, donc juste après le 7 février, pour savoir ce qui a provoqué cette lave torrentielle. Et en fait, à partir d'images, d'analyses d'images satellites, avant et après le 7 février, on s'est aperçu qu'il y a eu un glissement de terrain très important sur les flancs d'une montagne qui est proche d'un sommet qui s'appelle le Trissoul, à 7000 mètres d'altitude. Et à partir de 5600 mètres d'altitude, il y avait une grosse rupture avec un effondrement qui a eu lieu. Et il y a deux scénarios possibles qui expliquent cela. Donc, soit c'est un glissement de terrain d'un flanc de la montagne sur lequel il y avait un glacier, donc qui s'est écroulé sur à peu près 1800 mètres de dénivelé et qui a tout emporté sur son passage. Comme ça fait des quantités d'énergie phénoménales, ça entraîne une fonte instantanée de la glace. Et du coup, au final, ça entraîne énormément d'eau, de glace, de débris, et ce qui entraîne la lave torrentielle. Ça, c'est le premier scénario. Et le deuxième scénario, c'est potentiellement uniquement le glacier qui a dérapé sur sa base. Donc, en fait, le glacier, il est posé sur une strate de rocher, et soit c'est la strate de rocher qui a glissé elle-même, soit c'est le glacier qui a dérapé. Et pour l'instant, c'est ces deux scénarios-là qui sont envisagés, mais à partir uniquement d'images satellites, on ne peut pas déterminer si c'est l'un ou l'autre scénario qui a eu lieu.
Alors très rapidement, on a entendu des commentaires disant que ce phénomène était lié au dérèglement climatique. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors j'en pense que selon un scénario ou l'autre, oui, potentiellement c'est lié, puisque si c'est le dérapage du glacier lui-même, ça signifie que la base du glacier, donc qui est collée au socle rocheux, est potentiellement arrivée au point de fusion, c'est-à-dire à 0 degré. À partir de là, le glacier qui était collé sur le socle rocheux se décolle et se met à glisser, et donc en portant tout sur son passage. Donc ça, oui, si c'est ce scénario-là qui est retenu, on verra à partir d'analyses supplémentaires, de modélisation, d'analyses sur le terrain. Si c'est ce scénario-là qui est retenu, oui, potentiellement le réchauffement climatique a un rôle majeur.
Alors avec d'autres scientifiques, vous avez mis en place un réseau d'observation sur plusieurs glaciers en Himalaya pour mesurer justement les variations de volume de ces glaciers et relier aussi ces variations à la météorologie locale. Quels sont les résultats ?
Alors les résultats, c'est qu'on voit globalement sur l'ensemble de l'Himalaya une perte de masse qui est à peu près de... Donc On évalue ça en une espèce de lame d'eau qu'on perd annuellement sur l'ensemble de la surface des glaciers. Donc, c'est à peu près 30 cm par an, entre 20 et 30 cm par an, en équivalent eau, qui serait perdue sur l'ensemble des glaciers. C'est à peu près deux fois moins que la moyenne mondiale, qui est autour de 40-50 cm. Ce qui signifie que les glaciers perdent de la masse de façon importante en Himalaya, mais finalement un petit peu moins que la moyenne mondiale. Par contre, il y a des disparités énormes entre une zone et l'autre de l'Himalaya. L'Himalaya, c'est une chaîne de montagnes qui fait 2500 km de long, enfin l'Himalaya au sens large, hein, quand on prend toutes les chaînes de montagnes autour du Tibet. Donc au global, c'est quand même une chaîne énorme avec des climats qui sont très différents. Et selon si on se situe au nord-ouest ou au sud-est de la chaîne, la perte de masse est très différente.
Alors avec des conséquences évidemment différentes aussi pour les populations.
Oui, complètement, puisque si on se situe au nord-ouest de la chaîne, donc plus vers le Karakoram, vers le Kunlun, l'extrême ouest du plateau tibétain, c'est une zone qui est très aride en été. Donc, du coup, les glaciers ont un rôle fondamental dans cette région-là, puisqu'en été, ils fondent, et donc ils approvisionnent en eau potable, pour l'irrigation, pour l'hydroélectricité, toutes les populations qui vivent en aval. Alors que dans la partie sud-est, c'est des glaciers qui sont soumis à la mousson, donc la mousson asiatique ou la mousson du golfe du Bengale, qui apporte d'énormes quantités de pluie pendant l'été et qui est aussi la saison de fonte. Donc du coup, finalement, le rôle des glaciers est moindre par rapport à ce qui se passe dans le nord-ouest de la chaîne, puisque dans la partie sud-est, quand ils fondent, il y a aussi déjà beaucoup d'eau qui est apportée par la pluie. Donc finalement, ils ont moins de rôle par rapport aux populations.
Alors cette dépendance des populations aux glaciers, cette fonte des glaciers, et vous le disiez, est un phénomène mondial, hein, et les glaciers de la chaîne des Alpes en Europe n'échappent pas à ce phénomène. Qu'ils soient en Suisse, en Italie, en Autriche ou en France, même constat, les glaciers se réduisent petit à petit en perdant de la masse glaciaire qui ne peut se régénérer d'année en année. Le phénomène étant bien là et irréversible, la recherche se penche urgemment sur les conséquences de cette fonte. Clémentine Métainier est allée à la rencontre de ceux qui scrutent ce phénomène.
Antoine Rabatel est glaciologue. Il travaille depuis plus de 20 ans en tant que chercheur scientifique à l'Institut des géosciences de l'environnement, l'ancien laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement de Grenoble. C'est là où je le rencontre. Au début de l'année, il révèle avec ses confrères autrichiens, italiens et suisses les résultats d'une étude menée depuis 2015. En réalisant l'inventaire des glaciers des Alpes françaises, ils se rendent compte d'une accélération brutale de la fonte des glaciers depuis 2003.
Alors dernièrement, effectivement, j'ai conduit une actualisation de l'inventaire des glaciers dans les Alpes françaises à partir d'images satellites, donc d'un satellite de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Sentinel, Sentinel 2 précisément. Donc ce satellite a été lancé en 2015 et dans le cadre d'un projet à l'échelle des Alpes européennes, on a utilisé les premières images acquises par ce satellite pour réaliser cette actualisation de l'englacement, si je puis dire, des Alpes européennes. Et donc moi, en tant que responsable français de ce projet, j'ai travaillé à l'échelle de nos massifs alpins français. Et ce qui a été intéressant, c'est lorsqu'on a pu comparer les résultats de cet inventaire de 2015 avec les inventaires qu'on avait réalisés précédemment. Donc il y en avait un qui datait de 2003 et puis le précédent datait du milieu des années 80. Et ce qu'on s'est aperçu en comparant les différentes périodes, donc la période 85-2003 puis la période 2003-2015, c'est que le retrait sur la période 2003-2015 est trois fois plus important que le retrait qu'on avait pu quantifier sur la période précédente, donc 85-2003. Et cette multiplication par trois de la perte de surface des glaciers nous a un petit peu surpris. Bon, on s'attendait évidemment à ce que les glaciers continuent à reculer. Néanmoins, c'est l'ampleur, si je puis dire, de cette augmentation de la perte de surface des glaciers qui peut paraître surprenante.
Plus concrètement, il y a des sommets des glaciers critiques dans les Alpes ?
Oui, alors dans les Alpes françaises, c'est des choses qu'on a pu mettre en évidence. Le fait que à l'échelle du XXIe siècle, en fonction des scénarios d'évolution du climat qui sont proposés par nos collègues climatologues, une grande partie des glaciers présents dans le massif des Écrins, le massif de la Vanoise, seront amenés à disparaître très vraisemblablement. Quel que soit, si je puis dire, le scénario, même dans les conditions les plus optimistes, et malheureusement la tendance actuelle montre qu'on est loin de ces scénarios optimistes, si je puis dire, qu'on a plutôt tendance à aller vers les scénarios pessimistes. Et on a évalué que l'ensemble des glaciers dont l'altitude la plus élevée, l'altitude maximale, est inférieure à 3400-3500 mètres, ont de fortes chances de disparaître d'ici la fin du siècle. Ça veut dire que, grosso modo, en dehors du massif du Mont Blanc, d'ici la fin du siècle, il ne restera plus beaucoup de glaciers dans les autres massifs que sont la Vanoise, les Écrins ou les Grandes Rousses ou le massif de Belle.
Ce constat, Joseph Rouard le dresse aussi, il le vit même physiquement. Depuis plus de 40 ans, son quotidien côtoie celui du glacier du Mont de Lance, qui culmine la station de ski des Deux Alpes. Il est l'un des pisteurs les plus anciens de cette station, qui possède le plus grand glacier skiable d'Europe. Habitant du Fresnay-d'Oison, à quelques kilomètres de la station, il regarde la neige fondre sur le pas de sa porte. Sur le terrain depuis 1976 et à quelques mois de la retraite, il est le mieux placé aujourd'hui pour parler de l'évolution du glacier du Mont de Lance.
Au début, on ne se rendait pas trop compte. On a eu des hivers enneigés, d'autres hivers moins enneigés, des fois des hivers pas du tout enneigés. Mais l'été, on avait toujours de la neige sur le glacier. Les premiers étés que j'ai fait fin des années 70 jusqu'au début 80, on avait de la neige sur le glacier, des neiges internelles. Et puis, milieu des années 80, on a vu cette neige commencer à fondre, chaque été de plus en plus, jusqu'à arriver complètement à la glace, quoi. Donc, toute la neige qui était sur la glace a fondu. Et on était en fin d'été, on arrivait toujours sur la glace. Et maintenant, chaque été, on est quasiment à la glace, tout le temps, presque. J'ai une photo que j'ai prise l'été dernier, là. C'est le jour qu'on l'a fermé, le 30 juillet, là. Il n'y a plus de neige dessus, c'est que de la glace. On a déjà connu ça par les étés passés, mais en général, ça arrivait fin août. Ça. Et ça, c'est fin juillet, le 30 juillet, je crois qu'elle date la photo. C'est le jour qu'on a fermé le glacier. Et moi, j'avais jamais, depuis l'été 77 que j'ai commencé, on a toujours été au bout de l'été. C'est-à-dire, on a jamais fait de fermeture anticipée. On a toujours été jusqu'au dernier jour qui était prévu. Et cette année, on a fermé le 30 juillet jusqu'au 10 août. Après, il y a eu un petit coup de froid qui est revenu. On a pu rouvrir une dizaine de jours. Voilà. Mais on n'avait jamais fermé avant la date prévue.
Quand vous avez commencé à travailler, donc effectivement, en 1976, c'était le début, en fait, de ce qu'on appelait le réchauffement climatique. C'était déjà, le constat était déjà fait ou pas du tout, pas encore?
Je pense, à l'époque, on n'en parlait pas trop, hein. Le ski d'été, il a ouvert aux Deux Alpes, il a ouvert en 72-73. Donc moi, j'ai attaqué 4 ans après. On ne parlait pas trop. Moi, je ne me rappelle pas qu'on en parlait vraiment. En 76, il y avait une grosse sécheresse. Mais après, l'été 76, mais l'hiver 76-77 a été un des plus enneigés des dernières décennies. Donc après, non, on n'en parlait pas. On a commencé à s'en rendre compte milieu des années 80.
Et donc, de quelle manière vous vous en rendez compte de ce réchauffement? Est-ce que ça veut dire moins de neige? Est-ce qu'il fait plus chaud? Ou c'est aussi dans des choses beaucoup plus concrètes dans votre métier?
On s'en est rendu compte l'été, on n'avait jamais de... quand il pleuvait plus bas, la station par exemple, l'été il neigeait toujours aux alentours, à 2006-2008, c'était toujours de la neige. Et l'été, au glacier, fin des années 70, début 80, moi j'ai pas le souvenir d'avoir vu de la pluie au glacier. Et après, fin des années 80-90, là, on a commencé à avoir des gros orages sur le glacier, chose que j'avais pas vue avant, quoi. Avant, on avait dit qu'il faisait, faisait suffisamment froid pour que ça soit de la neige qui tombe et pas de la pluie. Et là, à partir de ces années-là, on voyait de la pluie qui délavait bien le glacier, et voilà.
Pourtant, ce glacier n'est pas dans la plus mauvaise posture. Dans la chaîne des Alpes, il est un glacier qui est voué à disparaître à très court terme. Il s'agit du glacier de Sarenne. Emmanuel Thibert le connaît bien. Il est physicien glaciologue à l'IRSTEA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, où il étudie les risques glaciaires depuis de nombreuses années avec une attention particulière portée à Sarenne. Il nous explique pourquoi l'étudier est intéressant.
Alors ce glacier, il a une particularité, c'est que... Bon, il est sur une zone d'altitude aux alentours de 3000 mètres. Il est tout petit aujourd'hui. Il est exposé plein sud. Et il a la particularité d'être très sensible au signal climatique. Par sa petite taille, en fait, on a une mesure très très homogène sur tous les sites de mesure du glacier, de ce qui est représentatif des échanges d'énergie entre le glacier et l'atmosphère. Donc la richesse de Saren, c'est cette sensibilité au climat, et puis la longueur de la série. On a 70 ans presque de mesure, donc on a une très bonne idée de l'évolution des tendances à long terme. On arrive à voir quelles sont les tendances, on arrive à déceler autour de ces tendances quelles sont les années très particulières, des étés très très chauds comme 2003, ou des hivers très très secs, autour de ces longues tendances. Donc c'est ça la richesse de longues séries d'observations comme Saren, de pouvoir tirer cette information climatique en termes d'évolution à long terme, parce que dans notre contexte d'évolution de réchauffement du climat, il est très difficile d'attribuer une année particulière au niveau météo, de l'attribuer à un phénomène climatique qui se déroule sur le long terme.
Mais justement, au-delà d'analyser les données dans l'évolution, est-ce que c'est alarmant la manière dont la fonte a pu évoluer sur ce glacier-là, ou c'est la suite de l'histoire et la suite du climat ?
Alors, une des particularités des glaciers comme Saren, des petits glaciers qui sont sur des altitudes et dans des massifs de moyenne montagne à haute montagne, c'est que ce sont des glaciers qui se sont construits, qui se sont installés dans ces massifs lors d'un épisode climatique froid qu'on appelle le petit âge de glace, qui est une période froide d'origine naturelle qui a eu lieu entre 1650 et 1850. Et on est sorti de cette période froide depuis donc le milieu du 19e siècle. Et en fait, ces glaciers étaient condamnés à disparaître avec l'évolution naturelle du climat. En plus de cette évolution naturelle du climat, en fait, l'homme a perturbé l'atmosphère avec son émission les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, en fait, l'homme a accéléré, est en train d'accélérer la disparition de ces glaciers type Saren installés dans ces massifs de moyenne altitude. Mais l'échéance du glacier a change, mais en fait, ces glaciers étaient quand même voués à disparaître. On a fait qu'accélérer, en fait, l'échéance de leur disparition.
Est-ce que c'est grave, un glacier qui fond ?
Alors, c'est grave, on va dire que l'évolution dont on parle, elle est accélérée par l'homme. Donc, ce qui est grave, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. Et de manière plus générale, c'est l'évolution du climat tel qu'on est en train de l'imposer au milieu naturel. Ça évolue beaucoup plus vite que une évolution naturelle du climat. Donc, c'est dans ce sens-là que l'impact de l'homme est important. Mais sur la disparition en elle-même du glacier, on va dire que ça a un impact relativement limité dans nos massifs sur la ressource en eau. Elle est essentiellement liée à la neige de l'hiver. Et sur ces bassins d'altitude, on aura toujours un fort enneigement hivernal. La disparition du glacier, ça impacte très localement dans le haut des bassins versants la ressource en eau, lorsqu'on est très proche des glaciers. Mais dès qu'on se passe un peu plus loin en vallée, en fait, la ressource en eau, elle est plus naturellement assurée par ces glaciers, elle est assurée par la ressource pluviale, par les aquifères. Et donc, on va dire que la disparition de ces glaciers, elle a peu d'impact à l'échelle des bassins, des grands bassins versants, elle a peu d'impact sur la ressource en eau.
Justement, l'une des principales conséquences de la fonte des glaciers relève de l'hydrologie. Il faut savoir que le rôle de stockage saisonnier puis de redistribution d'eau des glaciers est primordial. Il est estimé qu'un sixième de la population mondiale dépend des stocks de neige et de glace en été. Avec le réchauffement, la ressource en eau pourrait bien se raréfier à long terme, entraînant alors des conséquences sur ses usages pour l'agriculture, l'hydroélectricité, donc pour les hommes, mais aussi pour toute la biodiversité. Et c'est là qu'interviennent les hydrologues, chargés notamment de modéliser les bassins versants dépendants, en partie, des glaciers, pour appréhender les futures conséquences. Pour mieux comprendre ce processus, direction la vallée de l'Arvan, près de Saint-Jean-de-Maurienne, à plus d'une centaine de kilomètres de Grenoble. Le torrent de l'Arvan se repère très facilement.
Isabelle Gouttevin est hydrologue et travaille au Centre d'études et de la neige de Grenoble, accompagnée ce jour-là de Thomas Condon, chercheur en hydrologie et glaciologie à l'Institut des géosciences de l'environnement. Elle développe un projet de recherche sur le bassin versant de l'Arvan qui prend sa source au glacier de Saint-Sorlin. C'est leur première sortie sur le terrain en ce mois d'avril, mais il y a encore beaucoup de neige. La pose des capteurs sera donc pour plus tard.
Alors moi personnellement c'est ma première venue de l'hiver parce qu'en général au niveau glacio-hydrologique l'hiver on fait pas vraiment d'observation, les sites sont inaccessibles, la couverture neigeuse peut être importante, ici on est à plus de 1500 mètres, puis le glacier culmine à 3400 mètres, donc on est clairement on n'y vient pas tellement l'hiver. Il est intéressant pour autant de connaître l'accumulation neigeuse et là on est sur une année particulièrement riche, énormément, exceptionnellement beaucoup de neige. Ce qui explique aussi pourquoi on vient un peu plus tard dans la saison par rapport à d'habitude. D'habitude, les capteurs sont un peu remis en eau à cette période. Et puis là, on va attendre encore un peu de temps que je sois sûr qu'il n'y ait plus trop d'épisodes de neige et surtout de gel à cet endroit-là. Parce que sinon, ça pourrait être dommageable aux capteurs. Voilà. Mais bon, il y a pour autant des enquêtes de terrain qui ont lieu actuellement sur ce bassin versant qui est ciblé par nos équipes. Pour mieux connaître les usages de l'eau et les volumes et leur saisonnalité, la saisonnalité des prélèvements anthropiques. Le gros boîtier gris là que vous voyez, en fait c'est ce qui est utilisé pour la mesure de turbidité. Alors c'est un préleveur en fait. Dedans il y a des tubes où lorsque le débit atteint un certain niveau ou la hauteur d'eau atteint un certain niveau, les chercheurs pensent qu'il est intéressant d'échantillonner et donc on va avoir un échantillonnage automatique qui va collecter donc des prélèvements qui seront ensuite analysés en laboratoire. Voilà.
Si les conséquences de la fonte des glaciers sur l'eau sont à observer au cas par cas, car le processus est complexe, il n'en reste pas moins que des craintes sont bien présentes pour différents acteurs à l'échelle des bassins versants des Alpes.
Alors c'est quand même une crainte des gestionnaires de l'eau. La Saint-Sorlin, du coup, il a perdu à peu près 40% de sa surface depuis les années 80. 40%, c'est presque la moitié, quoi. C'est beaucoup. Enfin, ça, c'est visible.
À l'échelle humaine, quoi. Enfin, ouais. Il y a quelque chose de patrimoine, quoi. Un glacier, on est dans une région, on est habitué à ça, quoi. Il n'est plus là, ça change, ça bouleverse les gens, quoi.
Et quelle est la principale conséquence sur l'eau de la fonte d'un glacier comme celui-ci ?
C'est l'altération des débits estivaux qui vont... Le volume de débit lié à la fonte glaciaire, donc le volume de débit qu'on va retrouver en bas d'un bassin versant englacé au mois d'août, typiquement dans nos régions, il va être plus faible si le glacier est sur le point de disparaître qu'il ne l'est actuellement. Et puis on va a priori voir du coup un décalage de la saisonnalité du débit plus vers la période de fonte nivale. Donc la fonte nivale, a priori, dans un cas de réchauffement climatique, elle va commencer plus tôt. Elle va toujours avoir lieu, mais il y aura peut-être un peu moins de neige. Et du coup, le pic de débit qu'on va retrouver à l'aval, il aura plutôt lieu au mois d'avril-mai qu'au mois de juillet, comme ça l'est actuellement.
Après, il y a tout ce qu'on peut mettre en place comme moyen de mitigation, quoi. Enfin, ouais. Comme moyen de résoudre ce problème si on avait une pénurie d'eau, quoi. Et là, il y a quand même des choses à faire avec des retenues collinaires. Alors, faire attention aussi, parce qu'il peut y avoir des zones humides à préserver. Tout est complexe. Il peut y avoir il y a quand même quelques expériences de réinfiltration de nappes. Donc, on remet de l'eau dans les aquifères. Ça permet quelque part d'avoir un stock après qu'on peut réutiliser. Il y a encore beaucoup de choses à développer, je pense. Et aussi de s'inspirer de ce qui se fait peut-être dans les autres régions. Dans une région où il fait très sec, bah, ça fait longtemps qu'ils gèrent l'eau de manière, économe, quoi. Donc il y a aussi à aller s'inspirer de différentes zones du monde, quoi.
Des Alpes, le fameux Erythrichnin. Ces deux fleurs sont absentes du reste du massif. Pour survivre, elles ont trouvé refuge sur cette roche faite de quartz qu'on ne trouve que sur la pointe de Buffer.
Si la fonte des glaciers laisse présager un futur sombre sur de nombreux plans, en bas, là où vivent les hommes, il n'en est pas de même, en haut, sur les cimes ou sur les îles du ciel. C'est d'ailleurs le nom de cette exposition au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble, consacrée aux plantes de haute altitude. Elle s'ouvre en parallèle de la publication d'une récente étude menée par des chercheurs du laboratoire d'écologie alpine, en lien avec le Parc national des Écrins, qui montre que les plantes de haute altitude sont parmi les grandes bénéficiaires du réchauffement climatique. C'est ce qu'on appelle le verdissement des Alpes. Rencontre avec Cédric Dantan, botaniste au Parc national des Écrins. Il a participé à cette étude. Je le rencontre au milieu des cartes en relief et des photos de plantes de montagne. Aujourd'hui, Cédric, je vous retrouve au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Alors, qu'appelle-t-on les îles du ciel, justement ?
Alors, la notion d'île du ciel, bon, ça vient de l'américain Sky Islands. C'est que les hauts sommets, les hautes montagnes, où qu'on soit sur la planète, en tout cas, nous, on s'est intéressés pour les Alpes, faisaient comme des îles, il y a en gros un peu plus de 15 000 ans, entre moins 2 millions d'années et moins 15 000 ans à peu près, au milieu d'un océan de glace. Donc maintenant, le résidu, c'est notre fameuse mer de glace à Chamonix, par exemple. C'est vraiment le résidu. On appelle ça une mer, d'ailleurs, pas un océan. Et les îles du ciel, ben, c'était ces îlots rocheux déglacés, c'est-à-dire sans glace, qui émergeaient. Et pourquoi la logique d'île aussi, c'est que c'est des endroits où la vie était possible, a priori, justement. Et c'est ça qu'on a cherché à étudier avec toute une panoplie de personnes à Grenoble.
Cette étude, effectivement, qui m'a interpellée, mais qui était une des rares études, je pense, qui a été faite sur le sujet, en tout cas dernièrement, sur les Alpes, montrait qu'en fait, les plantes de haute altitude, elles sont parmi les grands bénéficiaires du réchauffement climatique. C'est un petit peu ça, la ligne rouge de l'étude. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. Il se passe deux choses. En gros, on a tendance à dire qu'avec le changement climatique, il y a tout un pan de la biodiversité qui va disparaître. Et c'est pour partie vrai. Mais c'est pas que le changement climatique, c'est aussi l'activité humaine, c'est même beaucoup l'activité humaine indépendante du changement climatique. Dans les Alpes, le réchauffement climatique est plus fort qu'ailleurs. Les températures augmentent plus vite qu'ailleurs. Donc l'idée, c'était comprendre un petit peu qu'est-ce que ça allait changer finalement dans les Alpes. Et c'est vrai qu'il y a des études un peu similaires qui ont été faites dans la zone arctique, et il a été constaté finalement une augmentation de l'activité de la végétation. C'est-à-dire la végétation était en gros comme un jardin qui devenait plus luxuriant. Ce qui n'est pas absurde quand on imagine un petit peu, il fait plus chaud, plus longtemps, du coup, bon, c'est pas logique que les plantes soient gagnantes. Dans les Alpes, il y a tout un lot d'espèces qui sont liées à l'altitude. Bah, finalement, si ça se réchauffe, elles vont continuer à monter, puis au bout d'un moment, elles n'arriveront plus à monter, elles disparaîtront. Si on se base à une échelle de temps courte, c'est-à-dire là, on va dire là maintenant et puis dans les 50 prochaines années, c'est pas ça qui va se passer. Ce qui se passe, c'est effectivement ces plantes-là, on leur offre un nouvel espace. Les glaces fondent, les névés fondent, il fait plus chaud, finalement, elles sont bénéficiaires. Mais c'est peut-être sur les 50, sur le siècle à venir. Ensuite, malheureusement, si le changement, vu comme c'est parti, continue, voire s'accélère encore, il n'est pas dit qu'après avoir gagné un petit peu, elles perdent derrière. Un peu comme un bon repas, on nous sert dessus plein de desserts, on se gave, mais après là c'est l'indigestion, voire la crise de foie aiguë, enfin bref. Et c'est un peu ce qui peut se passer, c'est-à-dire sur une échelle de temps relativement restreinte, on voit que les plantes sont bénéficiaires, sur une échelle de temps plus long, elles risquent d'en pâtir énormément.
Alors plus concrètement, de quelles plantes s'agit-il ? On les appelle souvent les plantes de l'extrême, en tout cas c'est ce que j'ai pu lire. Comment elles se sont adaptées ? Est-ce qu'on les trouve ailleurs ?
Alors les plantes de l'extrême qui sont liées à cette exposition au Muséum de Grenoble, c'est vraiment des plantes vraiment spécialisées à la haute montagne. C'est pas elles qui contribuent majoritairement au verdissement des Alpes. Celles qui contribuent au verdissement des Alpes, ce sont celles qui seront un peu en dessous. Ces plantes de l'extrême, alors elles en ont vu d'autres, quoi. Elles en ont largement vu d'autres. La preuve, elles sont apparues pendant les périodes glaciaires, donc là, et elles sont toujours là. Donc c'est difficile de savoir vraiment ce qu'elles vont devenir, parce qu'on voit qu'elles sont capables de résister à des températures mais de plus 56 degrés en pleine journée, de supporter des moins 20 degrés. Enfin, elles sont assez spectaculaires, ces plantes. Hein. C'est pour ça que ça vaut le coup de faire une expo sur elles. C'est qu'elles méritent vraiment une attention particulière. Que ce soit dans les Alpes, mais on trouve la même chose effectivement dans les hauts sommets d'Afrique, où il y a des plantes qui, comme le disait un scientifique à l'époque, subissent un hiver chaque nuit, un été chaque jour. Ça, c'est typiquement le Kilimandjaro, le mont Kenya, où il y a des plantes en haute altitude. Elles doivent supporter des chaleurs extrêmes et des froids extrêmes sur 24 heures. Donc bref, les plantes d'altitude, c'est pas toujours évident de prévoir ce qu'elles vont devenir, parce qu'elles ont des sacrées capacités.
En atteste l'étude parue le 5 avril dernier dans la revue Nature, qui montre en effet qu'avec le réchauffement climatique, des plantes rares apparaissent ou réapparaissent, avec un nombre d'espèces qui se seraient enrichies sur 87% des sites européens étudiés sur 45 ans de relevé botanique.
Un reportage de Clémentine Métainier réalisé par François Porcheron. Patrick Vagnon, je rappelle que vous êtes glaciologue à l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble. On entend dans ce reportage l'inquiétude des populations qui vivent dans les Alpes, que ce soit en Suisse, en Italie, en Autriche ou en France. Le constat est le même, hein, les glaciers fondent. Et du coup, est-ce que les conséquences dans les Alpes sont comparables à ce que l'on peut voir en Himalaya ou en Amérique du Sud ?
Oui, elles sont relativement comparables, même si ce n'est pas exactement la même échelle. Par contre, symboliquement, c'est extrêmement important puisque les glaciers sont visuels. C'est des icônes du changement climatique. On les voit disparaître, on les voit rétrécir à l'échelle d'une génération ou même à l'échelle de quelques années. Donc, c'est quelque chose qui sensibilise énormément les gens dans les Alpes, puisque c'est quelque chose qui est visuel et qui est appréhendable par tous. Ça a aussi des impacts très locaux sur le tourisme, forcément les stations de ski qui dépendent de certains glaciers pour une exploitation pendant l'été ou même l'hiver, c'est extrêmement important. Il y a aussi des risques qui sont parfois liés aux glaciers, des risques de, bah, comme on l'a vu en Inde, cet événement, bah, ça peut potentiellement arriver dans les Alpes aussi. Donc d'une certaine façon, il y a des choses qui sont extrêmement comparables d'un massif à l'autre. Et au niveau ressources en eau, les grandes chaînes de montagnes comme l'Himalaya, par exemple, ont un impact plus important sur la ressource en eau, puisqu'il y a des zones irriguées, par exemple, au niveau du Pakistan, au niveau du nord, du Karakoram, dans le massif du Kunlun, il y a des zones irriguées qui sont à peu près la moitié, voire l'ensemble de la surface de la France, qui dépendent directement de l'eau de fonte pour l'approvisionnement en eau. Donc, c'est des échelles qui sont différentes, mais avec des problématiques similaires.
Et alors, est-ce que vous diriez que en Europe, donc au niveau des Alpes, on est peut-être un peu moins dépendant des glaciers parce que mieux outillés?
Je pense qu'on est beaucoup plus riche aussi que les populations qui vivent autour de l'Himalaya. Donc, on a des moyens de faire face, plus de moyens de faire face à cette situation, même si c'est une situation qui est extrêmement préoccupante et qui est irréversible actuellement.
Alors, c'est dans quelle proportion cette fonte dans les Alpes?
Dans les Alpes, ces dernières années, on a à peu près une perte d'eau de 1 mètre par an. C'est-à-dire qu'en fait, on a une perte de volume des glaciers, l'équivalent d'une surface, d'une lame d'eau de 1 mètre qui serait répartie sur l'ensemble de la surface des glaciers. Ça, c'est une moyenne sur une tendance sur les 10-20 dernières années, avec forcément des fluctuations d'une année à l'autre qui sont extrêmement importantes, qui sont liées aux fluctuations de la météorologie. On sait qu'on a des années sèches, on a des années chaudes, on a des années froides, on a des hivers avec beaucoup de neige, d'autres très secs. Donc ça, c'est extrêmement normal, on a des fluctuations interannuelles et les glaciers répondent de cette façon-là. Il y a des années où les glaciers perdent énormément de masse et puis d'autres où ils en gagnent légèrement ou ils sont stables.
Alors, qu'est-ce qui explique cette fonte des glaciers? Quelles sont les causes?
Alors, les causes, elles sont multiples. Hein. Principalement dans les Alpes, c'est le réchauffement. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de la température qui augmente la durée de la saison de fonte. Cette saison de fonte, elle commence à peu près au mois de mai et elle dure jusqu'à fin septembre, voire octobre. On s'est aperçu que dans les 30 dernières années, cette saison de fonte qui dure environ 3 à 6 mois, elle a augmenté en moyenne de 3 semaines. Donc, du coup, les glaciers sont soumis à des températures élevées beaucoup plus longtemps. Donc, du coup, ils perdent plus de masse. Ensuite, comme aussi ils ont une saison de fonte qui a augmenté, ils perdent leur couverture de neige qui les protège du rayonnement solaire beaucoup plus tôt en saison. C'est-à-dire que la neige qui recouvre les glaciers à la sortie de l'hiver, elle est blanche, elle réfléchit de façon extrêmement efficace le rayonnement solaire. Quand elle disparaît, c'est la glace qui est dessous, qui affleure, qui est, elle, beaucoup plus sombre, qui capte préférentiellement le rayonnement solaire. Donc ça, c'est un effet, une rétroaction positive sur la température qui accentue cette disparition, cette fonte des glaciers. Donc, c'est un certain nombre de phénomènes, comme un peu une réaction en chaîne, qui fait qu'on a une accélération de la fonte.
Donc, c'est un cercle vicieux, finalement?
D'une certaine façon, oui, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le glacier devient complètement en déséquilibre par rapport au climat actuel, même si d'ici demain, on arrivait à stabiliser l'évolution de la température, les glaciers continueraient à reculer pendant un certain temps avant de se retrouver à nouveau à l'équilibre. Il y a une espèce de temps de réponse, de temps de latence, qui est plus ou moins important selon la taille du glacier.
Et alors, vous êtes guide de haute montagne aussi. Est-ce que vous avez constaté, vous, des évolutions, des changements dans de paysages ou des évolutions dans la montagne à l'œil nu?
Encore un peu plus, oui, que tout le monde. C'est-à-dire que la personne qui est allée se promener sur des glaciers, qui est revenue quelques années plus tard dans les Alpes, en Himalaya aussi, s'est aperçu qu'il y a des choses qui sont extrêmement bouleversées, extrêmement changées. Notamment, on voit très facilement le front des glaciers, c'est-à-dire la partie la plus basse des glaciers qui remonte en altitude. Donc, le glacier perd en surface. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très visible. Et effectivement, dans toutes les activités liées à la haute montagne, il y a un changement des pratiques qui s'opère dans les activités de montagne. C'est-à-dire que les courses de neige, donc les courses où on marche sur les glaciers pour aller jusque sur un sommet, on le fait beaucoup plus tôt en saison qu'il y a quelques années. C'est-à-dire que pour aller faire le Mont Blanc, la saison est plutôt en début d'été plutôt qu'à la fin de l'été. Puisqu'à la fin de l'été, on a des chances d'avoir de la glace vive, des conditions qui sont un petit peu plus compliquées. Donc, du coup, oui, on adapte les guides et tous les pratiquants de la montagne adaptent leurs activités en fonction de l'environnement qu'ils rencontrent.
Stop the rain, I'll keep the night from falling. Sometimes I just don't hear you when you're calling. I'm not a one-man band, can't write no songs about you. Can't even tell you I'd be lost without you. But I can do things that will keep you smiling, keep your face warm, baby, make you feel like crying without half trying. Treat you like a rich man's daughter, but I can make your heart pound with desire, make you wonder, baby, how I keep the fire taking you higher.
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI. Nous parlons de la fonte des glaciers dans le monde et de leurs conséquences avec Patrick Vagnon, glaciologue à l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble. Patrick Vagnon, on a parlé des glaciers de l'Himalaya, un petit peu des glaciers andins, des glaciers des Alpes. Ce sont un peu les trois grands pôles de glaciers dans le monde. Quels sont ceux qui fondent le plus vite ?
Ce n'est pas simplement les trois grands pôles, hein, parce qu'il y a encore toute la cordillère, donc les rocheuses. Il y a toute l'Amérique du Sud aussi, avec notamment la partie tropicale de l'Amérique du Sud, où il y a des surfaces glaciaires qui sont extrêmement restreintes. Mais beaucoup plus au sud du Chili, de l'Argentine, on a toute la Patagonie, avec des surfaces de glace qui sont extrêmement importantes. Actuellement, on s'aperçoit que les plus gros contributeurs à l'élévation du niveau marin, c'est l'Alaska. L'Alaska, c'est une immense chaîne de montagnes avec des grands, grands glaciers. Et actuellement, ils fondent d'une façon extrêmement forte. Ils contribuent de façon préférentielle par rapport à l'ensemble des chaînes de montagnes à l'élévation du niveau marin. Alors, il faut voir que l'élévation du niveau marin actuel, c'est à peu près pour moitié lié à la dilatation thermique. Les océans étant plus chauds occupent plus de volume. Et pour moitié, c'est l'apport supplémentaire en eau douce qui provient de la fonte des glaciers et des calottes glaciaires.
Et pas de la fonte des icebergs, ça c'est toujours un peu compliqué à comprendre.
Oui, c'est un peu compliqué. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord la banquise. La banquise, c'est la mer gelée. Donc, à partir du moment où la mer elle est gelée ou non gelée, finalement, ça ne contribue pas à l'augmentation puisque ce n'est pas un apport d'eau supplémentaire. Par contre, les glaciers qui n'arrivent pas dans la mer, dès qu'ils fondent, l'eau finalement est emportée jusqu'à la mer et contribue à l'augmentation du niveau marin. Et ensuite, il y a les icebergs. Donc, ce sont en fait les grands glaciers qui viennent flotter sur la mer et qui progressivement se détachent, donc libérant des parties flottantes qu'on appelle les icebergs. Et quand ces icebergs atteignent la mer, finalement, ils contribuent à l'élévation du niveau marin, mais ensuite, quand ils fondent, ils ne contribuent plus à l'élévation du niveau marin. C'est la loi d'Archimède, en fait. À partir du moment où on met un glaçon dans l'eau, le niveau d'eau qui est à côté du glaçon, eh ben, il sera le même si le glaçon est solide ou si le glaçon a entièrement fondu.
Alors, globalement, est-ce qu'il y a des zones où vraiment on s'inquiète beaucoup de la fonte des glaciers et de leurs conséquences ?
En tant que glaciologue, on s'inquiète partout.
Oui.
Partout dans le monde, ils fondent, sauf à un endroit qui est en fait la zone nord du Pakistan, où on parle de l'anomalie du Karakoram, où les glaciers sont encore relativement stables. Mais on s'inquiète un peu partout, puisque sur l'ensemble de la Terre, il y a une augmentation qui est extrêmement forte et qui s'accélère depuis les dernières années. Donc oui, il y a une inquiétude qui est permanente et globale.
Parce qu'il y a des endroits dans le monde où les ressources en eau dépendent étroitement de ces glaciers ?
Oui, il y a pas mal de... Donc on a parlé juste avant de l'Himalaya, mais par exemple, quand on parle de la zone andine, même dans la zone intertropicale, je vous disais qu'il y avait très peu de surface glaciaire. Sur l'ensemble de la zone intertropicale, c'est à peu près l'équivalent de la surface des glaciers des Alpes, ce qui est relativement réduit par rapport à la surface totale des glaciers dans le monde. Mais pour autant, c'est des glaciers qui sont situés proches de zones peuplées, de zones qui sont habitées et qui sont des zones désertiques. Si on regarde au niveau du Pérou, au niveau de la Bolivie, donc il y a des saisons sèches qui sont longues, qui durent 6 mois jusqu'à 9 mois par an. Et il y a des endroits où les gens dépendent des glaciers, de l'eau qui est apportée par ces glaciers pendant cette saison-là pour l'agriculture, pour l'irrigation, pour l'eau potable, pour l'hydroélectricité. Donc oui, même s'ils sont petits, ils ont un rôle extrêmement important au niveau sociétal.
Oui, parce que ça veut dire qu'il y a des personnes, enfin La Paz, c'est quand même des millions d'habitants, ça veut dire que ces habitants-là, s'ils n'ont plus ces ressources en eau, vont être obligés de bouger.
Il y a des villages, pour l'instant, on ne parle pas de villes qui vont être obligées de bouger, mais il y a, par exemple, au nord du Népal, et dans la région du Mustang, c'est une région qui est extrêmement sèche, qui est plutôt très proche du plateau tibétain. Les glaciers ont disparu, c'est des tout petits glaciers qui alimentaient le village, et ils ont été obligés de déplacer le village. C'est-à-dire que les gens n'étaient plus capables de rester dans leur village, alors qu'ils occupaient ce village depuis des siècles. Ça, c'est des anecdotes, finalement. Alors, ce n'est pas une anecdote pour les gens qui vivent dans ces villages-là, mais c'est aussi des signaux d'alarme avant-coureurs par rapport à des situations qui pourraient se produire pour des villes comme La Paz, justement, ou comme Lima, qui dépendent en partie des glaciers pour leur approvisionnement en eau.
Alors, est-ce qu'il existe des solutions pour limiter cette fonte des glaciers ? Lutter contre le dérèglement climatique, j'imagine ?
Oui, c'est ça. Enfin, nous, en tant que scientifiques, on est là pour alerter, pour faire un diagnostic, pour dire où est-ce qu'on en est. Ensuite, cette information-là, on la donne aux politiques qui vont, on l'espère, obtenir des solutions. C'est-à-dire que nous, on est là pour alerter, on est là pour sensibiliser le grand public et en même temps, en tant que citoyen, pour prendre des mesures pour justement limiter ce genre de choses.
Alors, il y avait des idées de couvrir des glaciers ou des solutions un peu d'ingénierie. On lit des choses un peu fantasques. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce qu'il y a des solutions qui sont fiables ?
Alors, ça, ce sont des solutions qui sont élaborées, mais qui sont à extrêmement petite échelle. C'est-à-dire que pour une station de ski, bah oui, ça a du sens d'essayer de préserver un glacier pour le maintenir un petit peu plus longtemps. C'est retarder une échéance. Et ça représente quelques hectares de glaciers. Alors que sur l'ensemble de la surface du globe, c'est 700 000 km² de glaciers. Donc, c'est vraiment des différences d'échelle qui sont de toute façon impossibles à gérer à grande échelle. Pour des sociétés qui exploitent un glacier de façon touristique ou même pour l'approvisionnement en eau d'une toute petite communauté, on peut envisager des solutions, c'est sûr, et c'est mis en place.
Alors, comme quoi, par exemple ?
En mettant, par exemple, des bâches, en tendant des bâches blanches sur un glacier pour éviter que le rayonnement solaire soit trop absorbé. C'est un petit peu comme essayer de continuer de maintenir la couverture de neige naturelle plus longtemps dans la saison pour éviter que le rayonnement solaire soit plus absorbé. Donc ça, c'est une solution. En Inde, par exemple, ils ont mis en place ce qu'on appelle des stupas de glace, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a réussi à mettre en place un espèce de stockage de façon à moitié pérenne, c'est-à-dire sur quelques mois, des blocs de glace pour pouvoir les préserver, pour pouvoir ensuite disposer de l'eau de fonte au moment où la communauté en a besoin. Mais c'est des solutions qui sont extrêmement ingénieuses, qu'il faut justement saluer, mais qui n'ont aucune portée globale. C'est uniquement pour retarder une certaine échéance, pour solutionner des problèmes locaux. Donc, à grande échelle, c'est absolument impossible d'imaginer ce genre de scénario.
Patrick Vagnon, vous venez de nous dresser un tableau un peu catastrophique quand même de la situation des glaciers dans le monde. Est-ce que vous pensez que la mobilisation est à la hauteur aujourd'hui ?
Je pense qu'on a une mobilisation qui est nécessaire, effectivement, et que je m'aperçois qu'il y a une prise de conscience au niveau de chaque citoyen, notamment avec cet exemple des glaciers. Ces glaciers sont très visuels, donc c'est des bons ambassadeurs pour montrer qu'il y a un changement climatique en cours. Je pense que la mobilisation au niveau des gouvernements, des collectivités, n'est encore pas suffisamment importante. Je pense qu'on vit actuellement une situation sanitaire qui est une situation de crise, qui montre qu'on est capable de prendre des mesures extrêmement fortes quand il y en a besoin. Et on devrait faire la même chose pour le changement climatique, puisque c'est effectivement extrêmement présent, avec des impacts qui sont potentiellement extrêmement, extrêmement forts.
On l'a compris, alors on entend bien votre prudence de scientifique qui ne veut pas s'engager sur le terrain politique, mais les propos sont quand même relativement clairs. Merci beaucoup Patrick Vagnon d'avoir participé à cette émission. Merci à Maëlle Roudot et à François Porcheron pour la préparation et la réalisation, et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre application Pure Radio ou sur le site internet de RFI. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.
São os quitutes da banda, são as bebidas também. Senta na esteira ou no luando.
Chica menue, chica menu coxi na guetenu, chica menue.
Que tava bombo com jingum a meia nungu a bichila. Mufete na brasa, o atema, mandioca, quincuanga, maiaca.
Chica menu coxi na guetenu. Uma cambote na cuetuenu, uma cambote.
Que sangue amaruvo, candingolo, cachipemba pra beber.
Uma cambote na cuetuenu, uma cambote.
Musonge fenja funje de akanduba kalulu mwamba sambol de savanda
chikamenu koshi na kwetenu chikamenwe
kipiku kanjika jinginga kibeba kisaka kitani kuishilu wanda
chikamenu koshi na kwetenu. Chica menu, coxi na pepenu, chica menu.
São os quitutes da banda, são as bebidas também. Senta na esteira no luando.
Ce samedi sur RFI.
Éco d'ici, éco d'ailleurs, Jean-Pierre Bory.